On va passer une semaine à jeûner et à prier. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui savent qu'ils vont jeûner toute la semaine. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'ils vont jeûner un jour, deux jours, trois jours? Moi, je vous encourage vraiment à ce que ce soit une semaine où on est capable de sortir de notre zone de confort. Okay, une semaine de jeûne et prière, elle va forcément nous demander d'aller un peu au-delà de ce qu'on connaît, au-delà de ce qu'on sait, au-delà de ce qu'on est capable en apparence de faire. Et Dieu donne des forces absolument incroyables, des ressources insoupçonnées qui nous permettent de vivre des temps qu'on n'aurait pas pensé vivre si on était juste resté dans la zone de ce qu'on connaissait déjà. On vous demande d'être sage, bien sûr, d'un point de vue médical surtout, mais on vous demande, sortez de votre zone de confort, sortez du bateau. Voilà, aventurez-vous, risquez-vous sur des terrains qui ne sont pas connus pendant cette semaine et vous allez être bénis. Vous allez être bénis, j'en suis convaincu. On a un guide pour cette semaine de jeûne et prière, je vous encourage à le lire, il vous a été envoyé hier, vous avez une trame pour chaque jour avec un thème par jour dans lequel on a à la fois une exhortation, on a des passages bibliques qu'on vous encourage à méditer, à travailler, sur lesquels vous pouvez prendre le temps de vous arrêter, on a des sujets de reconnaissance pour chacun de ces thèmes-là et on vous encourage vraiment à vous réjouir avec nous de ces choses-là et à dire merci Seigneur pour ces choses qu'on a notées là et puis toutes celles que vous aurez aussi sur le cœur ce jour-là et puis des sujets de prière. Et je trouve que c'est super quand on fait une semaine de jeûne et prière ensemble en église, de pouvoir aussi se dire qu'on est tous unis aujourd'hui en train d'intercéder, de prier, de demander les mêmes choses au Seigneur. Et bien sûr, ce ne sont pas des listes exhaustives, d'accord ? Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez là-dedans et puis vous pouvez vivre les temps que vous avez envie de vivre. Je réinsiste sur ce que Farid a dit, on vous lance vraiment ce défi-là de trouver deux, trois personnes avec qui vous allez passer toute la semaine un temps quotidien à prier ensemble. Il y a un vrai encouragement à pas juste prier seul dans son coin, mais à former voilà, un petit trio, un quatuor de prière. Ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est juste génial. Et je suis certain que si vous le faites, et j'aimerais vraiment que toute l'Église, on puisse se dire on l'a fait et qu'on puisse témoigner à quel point c'était super, vous verrez que vous n'aurez pas envie de vous arrêter à la fin de la semaine et que peut-être il y a un certain nombre de trios qui vont continuer encore. Voilà. Vous avez à la fin du guide de jeûne et prière aussi, à la fin des thèmes pour chaque jour, vous avez aussi un petit guide pratique sur pourquoi jeûner et comment jeûner. Donc si vous vous posez ces questions-là, elles sont là-dedans. Et enfin, à la fin de votre guide, les trois dernières pages, vous avez un outil dont je vais vous parler ce matin à la fin de ce message et que je vous propose de suivre pendant la semaine. Je sais que vous aimez beaucoup les outils et celui-là, il est vraiment sympa. Alors moi, je voudrais commencer ce message par vous poser une question. C'est, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, puis je vais vous demander de lever la main, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier et de ne pas en voir l'accomplissement ? Ok, ce serait plus marrant en fait que je pose la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui, à chaque fois qu'il prie, il voit l'accomplissement ? Bon, ok, si j'enlève les quelques blagues que j'ai vues au fond, je peux considérer qu'il n'y en a aucun qui a levé la main. Mais ok, donc il y a des fois on prie, on ne voit pas l'accomplissement. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui se sont déjà posé la question de quel ingrédient manquait dans notre prière qui fait qu'on n'a pas vu l'accomplissement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là, de dire, mais qu'est-ce qui manquait à ma prière pour que je sois exaucé ? Moi, clairement, c'est des questions que j'ai posées au Seigneur plusieurs fois. Et je vous propose juste quelques réponses là, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut se dire ou certaines choses qu'on peut entendre, et j'aimerais commencer ce message par démonter un certain nombre de choses, et elles sont importantes, ces choses que je vais démonter là. Essayons de se dire qu'on est ce matin des apprentis de la prière, ok ? Parce qu'en fait, on est rempli de mauvaises habitudes. Je vous le dis à l'avance. On est plein de mauvaises habitudes par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit vraiment sur ce qu'est la prière. Alors des fois, on peut s'imaginer qu'on n'a pas été exaucé parce qu'on n'a pas prié avec suffisamment de ferveur. Et ce que j'entends par la ferveur, c'est cette espèce de frénésie apparente qu'on peut avoir des fois quand on prie avec une démonstration, des tremblements, avec des haussements de voix. Et on s'est adressé finalement avec beaucoup d'éloquence à ce pourquoi on était en train de prier. Et la ferveur, selon la parole de Dieu, c'est pas ça. La ferveur, c'est juste de la prière authentique. C'est juste d'être complètement vrai dans notre cœur avec ce pourquoi on est en train de prier. Et Dieu n'attend pas de notre part qu'on soit les plus charismatiques alors que nous prions pour gagner en exaucement. Et bien sûr que la passion, bien sûr que la bonne ferveur, elle est un ingrédient de nos prières, mais elle n'est pas l'ingrédient qui détermine l'exaucement de ce pourquoi je vais être prié, ce pourquoi je vais prier. Okay ? Donc on n'ait pas peur de prier de manière simple, de manière naturelle, avec ce qu'il y a vraiment au fond de nos cœurs. Okay ? Cette frénésie, elle est souvent une façade. Hein. Derrière, on est des fois un peu creux. Alors, ce qu'on entend aussi un peu plus souvent, c'est que des fois, c'est qu'on a manqué de foi. Vous l'avez entendu, ça aussi ? J'ai pas été exaucé parce que j'ai manqué de foi. Alors, la foi, elle fait partie des ingrédients de notre prière. Okay ? Je dis pas qu'elle en fait pas partie. Mais est-ce que l'exaucement de ma prière est fonction uniquement du degré de foi que je vais y mettre? Est-ce que, parce que je vais prier, je suis convaincu que, je crois que, je sais que, maintenant, je le dis là, c'est ça, c'est maintenant, parce que j'exerce toute ma foi et ma croyance dans le fait que, oui, je suis sûr que ça va se passer. Moi, je peux témoigner qu'il y a des moments où j'ai prié en étant sûr qu'il allait se passer quelque chose, il ne s'est rien passé. Il y a des moments où j'étais dans un doute absolu et j'ai été exaucé. Ok, Seigneur. Je veux juste me souvenir que la puissance de ma foi, elle ne garantit pas l'efficacité de ma prière. C'est déconnecté. Ça va ensemble, d'une certaine manière. J'ai besoin de foi quand je prie, mais ce n'est pas la puissance de ma foi qui garantit l'efficacité de ma prière. Et je veux me souvenir par rapport à ça, que la prière, retenez ça, c'est de la faiblesse qui s'appuie sur de l'omnipotence. La prière, c'est de la faiblesse, la nôtre, qui s'appuie sur de l'omnipotence, celle de Dieu. Ok, la ferveur, la foi, la longueur ou la fréquence, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est que tu n'as pas prié assez souvent pour ça. Ou alors, c'est que tu n'as pas prié assez longtemps pour ça. Vous avez déjà entendu hein, ces prières où il y a la parenthèse, de la parenthèse, de la parenthèse, de la parenthèse, où on est à côté, on est en train de prier ensemble, et puis je commence à regarder ma montre parce que je me demande à quel moment je vais avoir le temps de prier avant qu'on finisse notre temps de prière. Est-ce que c'est ce qui fait que la personne en face de moi qui est en train de prier est davantage exaucée ? Non, non. Bien sûr que Dieu, il nous attend dans la persévérance. Il nous attend dans la persévérance, dans la prière. Pourquoi ? Pour nous changer. Dieu veut nous montrer que oui, on a besoin de réclamer et de persévérer dans la prière. Ne nous arrêtons pas, que je dise que la longueur de nos prières ne fait pas une différence ou que la fréquence n'est pas un ingrédient qui garantit l'efficacité de la prière ou l'exaucement, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous attend pas dans cette persévérance. Ça ne veut pas dire que, finalement, de dire « Ouais, Dieu fait ça, c'est suffisant dans nos vies. » Non, Dieu il veut nous apprendre qu'on doit dépendre de lui et que pour dépendre, on a besoin de venir régulièrement devant son trône. Par contre, rien ne nous encourage à nous éterniser dans des prières qui sont interminables, dans l'espoir d'avoir un peu gain de cause à l'usure, vous savez. Comme on a usé Dieu, on a tellement prié, il en avait tellement marre, il avait tellement envie qu'on s'arrête, qu'il nous exauce. Mais, enfin, ça nous fait sourire, mais des fois on réagit un petit peu comme ça. Alors, il y a autre chose d'un petit peu plus répandu dans notre croyance de l'efficacité de la prière, ouvrez bien vos oreilles, c'est quand on prie en utilisant « au nom de Jésus », « dans le nom de Jésus ». Oh là là, qu'est-ce qu'il est magique, ce « au nom de Jésus ». C'est réel, c'est souvent et malgré nous devenu une espèce de formule magique où on s'attend que parce qu'on a dit « dans le nom de Jésus », notre prière gagne en efficacité à ce moment-là. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que Jésus y dit dans Jean 14, 15 ou 16, quand il nous demande de prier en son nom. C'est qu'il nous invite à prier selon son autorité. Il nous invite à prier selon sa volonté, c'est-à-dire que Jésus il nous invite à demander les choses que lui-même demanderait au Père. Et alors que je me retrouve en train de demander au Père ce que Christ demande, oui, je suis exaucé. Oui, je suis exaucé. Alors, il est bon de rappeler, alors que nous prions pour certaines choses, que c'est dans le nom de Jésus que nous nous confions et qu'on peut se rappeler l'autorité du nom de Jésus, etc. Bien sûr, continuons à utiliser le nom de Jésus dans nos prières, mais ne l'utilisons pas comme une formule magique de fin de nos prières, s'il vous plaît. Ne l'utilisons pas comme ça. Ne limitons pas ce que Jésus implique dans prier en mon nom à finir nos prières par « Au nom de Jésus ». Vous me suivez jusque-là ? La prière, elle doit chercher à être dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est un ingrédient important de l'efficacité de nos prières. De dire, mais Seigneur, en fait, c'est quoi que toi, tu veux dans cette situation ? Là, je suis en train de prier, je suis en train de persévérer, je suis en train de prier avec ferveur, je suis en train de prier avec autorité, je suis en train de prier avec longueur. Seigneur, j'ai dit 5 fois dans le nom de Jésus depuis que j'ai commencé à prier quand même. Non, posons-nous aussi cette question-là, elle est importante. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Parle-moi. L'Esprit du Seigneur nous parle. Ok ? Donc juste aussi, il y a des moments où quand on prie, lâchons le bouton du talkie-walkie et ayons cette démarche humble vis-à-vis de Dieu, de dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux aussi dans cette situation ? J'ai besoin que tu m'inspires, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu nourrisses par ton esprit ma prière maintenant. Et si on demande les choses que Jésus demanderait, c'est évident que nous serons exaucés, j'en suis sûr. Et enfin, le dernier ingrédient, peut-être que vous avez entendu parfois, « Ah, mais c'est parce que tu n'as pas jeûné. » Et c'est parce que je n'ai pas jeûné, et donc il fallait que je jeûne. Et heureusement, on a une semaine de jeûne et prière, donc on va être super plus exaucés aujourd'hui. Pourquoi ? Non, le jeûne, il n'est pas une façon d'obtenir gain de cause devant Dieu. Okay. Le jeûne, ça ne nous rend pas plus méritants d'être entendus ou exaucés. Il n'y a pas une sorte de discussion avec Dieu qui dit « Mais regarde, Seigneur, de tout ce dont je me suis privé pour toi, et parce que j'ai fait ça, je sais que tu vas du coup honorer ma prière davantage. » Le jeûne, ce n'est pas ça, les amis. Ce n'est pas un marchandage avec Dieu de dire « Je vais faire un effort et je sais du coup, Seigneur, que tu vas faire ta part davantage. » que j'avais pas vu. Non, le jeûne, c'est une façon de communier à Dieu d'une manière plus profonde, d'une manière différente, de mettre en pause, comme Farid l'a dit ce matin, certaines choses dans nos vies, y compris nos propres ventres et notre digestion, pour dire, mais ce temps que je consacrais normalement à manger, je vais le consacrer pas à être oisif, je vais du coup le consacrer à chercher ta présence, Seigneur. Je vais chercher à communier avec toi. Je vais chercher à être plein de ton esprit, à rentrer plus profondément encore dans ce fleuve dont on a parlé ce matin, pour être sensible à ta volonté, pour prier dans ce nom de Jésus-là. Ok ? De mettre Dieu intentionnellement à la première place dans nos vies. Voilà ce que va faire le jeûne ce matin au milieu de nous. Et le jeûne n'est pas une garantie d'efficacité de nos prières. Voilà, je voulais vraiment commencer par là. Hein ? Parce que je crois que c'est important qu'on l'entende aussi des fois, parce qu'on tombe juste dans des habitudes de prière et vous allez voir que j'ai encore quelques uppercuts à vous mettre après. J'ai pas peur de parler d'uppercuts parce que je me les suis pris et je suis pas meilleur que vous. Mais je vous garantis que dans ce que j'ai préparé ce matin, il y a des choses qui m'ont... Je me suis pris des baffes de réaliser que je priais de certaines manières où la parole de Dieu, je n'ai aucun fondement biblique pour prier de cette manière-là. Donc on va parler de ça après, mais c'est vrai qu'à ce stade où on est arrivé là, peut-être qu'on est en train de se demander bah, comment on prie alors ? Peut-être qu'on est en train de se poser cette question-là. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous poser la question à quoi ça sert de prier. J'espère que ce n'est pas ça que je vous ai amené maintenant, mais que je vous ai amené à ce moment où on est en train de se dire mais comment prier alors ? Et cette question, elle est bonne, parce que les disciples ils l'ont posée à Jésus. Ils ont dit à Jésus, mais apprends-nous à prier dans Luc 11. Apprends-nous à prier. Et Jésus, il est resté muet par rapport à ça ? Non. Il leur enseigne un modèle unique de prière, le Notre Père. Okay ? Et on va passer le Notre Père ce matin. Vous l'avez déjà peut-être passé plein de fois. Oui, on l'a déjà enseigné dans cette église. Oui, mais je vous invite à quand même ouvrir vos oreilles ce matin parce que j'ai quelque chose à vous transmettre par rapport à ça et qu'il y a une connexion avec l'outil dont on va parler à la fin et qui va nous tenir pendant cette semaine. Alors, juste une petite parenthèse, on n'a pas besoin d'un modèle de prière différent pour chaque situation auquel on fait face. Okay ? La Bible, elle ne nous dit pas qu'il y a plein de sortes de prières différentes. En fait, ce qui est contenu à l'intérieur du Notre Père couvre l'ensemble des sortes potentielles de prières qui peuvent exister. Pourquoi ? Ben parce que la prière, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas une formule magique. Donc, il n'y a pas une forme appropriée qui va être efficace dans un domaine et puis une autre forme plus appropriée qui va être efficace dans un autre domaine. La prière, c'est une discussion avec Dieu. Et la réponse de Dieu à nos prières, elle dépend uniquement du caractère généreux, bon et sage de Dieu. Uniquement, pas de la précision, pas de la bonne forme de nos prières. Et si je dis ça, c'est important parce que par rapport à tout ce que j'ai pu dire avant et ce que je vais dire encore, on doit se souvenir malgré tout que Dieu regarde au cœur avec lequel nous prions et pas uniquement aux mots qui sortent de nos bouches. Et ce matin, c'est juste une exhortation de dire, mais essayons d'être davantage bibliques dans notre manière de prier, mais que personne ne se sente repris ou condamné ce matin en disant « Oh, j'ai pas prié les bons mots, j'ai déplu à Dieu ». Enfin, si vous avez ce genre de réflexion ce matin, non, il n'y a pas de ça. On n'est pas en train de se dire « Dieu juge ce qui est sorti de notre bouche », non, Dieu il juge notre cœur. Et tant que notre cœur il a envie de prier et il a envie de dire à Dieu ce qu'il y a sur notre cœur, alors c'est bon. Par contre, cherchons à ce que ce soit absolument biblique. Et Jésus, il nous dit, effectivement, il commence par là, « Quand tu pries, ce que Henri nous a dit ce matin, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. » Prie ton Père. Jésus, il nous enseigne à prier et à considérer la prière comme un moment d'échange entre nous et notre Père. Ok ? Et c'est de cette manière, du coup, que Jésus, il commence, quand il commence sa prière, en disant « Notre Père », que vous trouvez dans Matthieu 6, au verset 9, et puis les versets suivants, si jamais vous la cherchez. Et donc, « Notre Père ». Jésus, il nous enseigne ça. Premièrement, nous adresser à Dieu, nous adresser à notre Père quand on prie. Et c'est important que Jésus commence par là, parce que ça veut dire deux choses. Et c'est peut-être le point sur lequel je vais passer le plus de temps ce matin. Mais promis, je vais essayer d'être court. C'est que dans nos prières, on ne parle pas aux hommes. Quand on prie, on s'adresse à Dieu. On n'est pas là pour parler aux hommes. On ne profite pas de la prière pour dire aux gens ce qu'on aimerait leur dire et qu'on n'ose pas leur dire en face. Ok ? Je prie que tu changes d'attitude par rapport à cette situation, je prie que tu trouves de l'aide, je prie que tu t'accroches à Dieu. J'ai envie de dire, soit on fait un temps de coaching, soit on fait un temps de relation d'aide, soit on fait un temps d'échange avec la personne, soit on fait un temps de prière pour cette personne. Mais distinguons les deux. Ok ? C'est pas la même chose. Sauf dans le contexte d'une parole de sagesse qui va être donnée de la part de Dieu et qui est un don de l'Esprit. Et ce n'est pas une parole de sagesse de ma part à moi. C'est une parole de sagesse, un don bien précis qui, dans une situation précise, va parler de la sagesse de Dieu sur comment sortir de cette situation, sur quelle est la perspective, sur quelle est la bonne attitude à avoir. C'est un don précis qui se manifeste et qui s'appelle la parole de sagesse. Mais tout ce qui ressort de l'ordre du conseil pour la personne ne devrait pas faire partie de nos prières. C'est un temps à part. Ok ? Donc on ne parle pas aux hommes. Voilà. Quand on prie en s'adressant à la personne pour laquelle on est censé prier, ça peut même des fois s'apparenter à une forme de manipulation spirituelle. Donc je vous rends attentif à ça. Parce que sous couvert d'une prière, sous couvert d'un temps où on est avec Dieu, on fait du conseil, on peut orienter des vies, et ça peut s'apparenter alors que c'est fait avec une dimension très honorable dans notre cœur. Encore une fois, je juge les cœurs de personne. Mais attention, parce que ça peut s'apparenter à une forme de manipulation spirituelle de faire des choses comme ça. Donc bien que ce soit honorable, attention, ce n'est pas de la prière. Le conseil n'est pas de la prière. Distinguons ces choses-là. La prière pour un frère et le conseil donné à un frère. Et au milieu de tout ça, usons de la parole de sagesse. Oui, cherchons à être ouverts à ce que le Saint-Esprit nous inspire des clés effectivement pour la vie, mais qui soient des paroles de sagesse et non pas des conseils. Ok, donc j'ai dit on s'adresse à Dieu, donc on ne s'adresse pas aux hommes. Donc ça, c'est la première baffe que moi je me suis prise, et j'espère que vous la prenez aussi, mais elle est douce, la baffe du Seigneur, tellement douce. Mais c'est important qu'on le réalise, ok ? Parce que plein de fois j'ai vu, plein de fois j'ai participé, plein de fois j'ai prié en donnant aussi des conseils. Et bien maintenant j'apprends à essayer de me garder de faire ça et de prendre un autre temps pour aussi donner des conseils à la personne dans la situation dans laquelle elle est. La deuxième chose, c'est qu'on ne parle pas non plus aux autorités spirituelles démoniaques. Ok ? On peut s'adresser à un démon. On peut chasser un démon. D'accord ? C'est quelque chose de précis. Et on voit la délivrance dans les Écritures à de nombreuses reprises. Donc on peut s'adresser à une autorité spirituelle là. C'est pas ce que j'entends par autorité spirituelle démoniaque au sens large. Mais en fait, dans la parole de Dieu, on ne voit pas de déclaration générale pour prendre position. Voilà, c'est ça que je veux dire ce matin. Oui, nous pouvons délivrer, oui, nous pouvons chasser un démon, mais dans la parole de Dieu, je vous mets au défi de trouver des déclarations générales pour prendre position face aux autorités spirituelles démoniaques, des choses en « je déclare ceci » ou « je proclame cela ». D'accord ? Et ça, on le fait beaucoup dans nos prières. Je l'ai fait beaucoup. Et j'essaye de me reprendre par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de fondement biblique. Je déclare la providence de Dieu sur ta vie n'a aucune valeur. Je déclare une nouvelle saison qui vient maintenant n'a aucune valeur. Je déclare la guérison n'a aucune valeur. Aucun fondement biblique. Je proclame que l'ennemi ne peut t'atteindre n'a aucune valeur. Je proclame que la paix de Dieu vient sur toi. Je proclame que le temps de la joie est là et que la faveur de Dieu se renouvelle sur toi. Je proclame que cette douleur part maintenant n'ont aucune valeur, si ce n'est celle de l'intention de notre cœur que Dieu voit malgré nos mots. D'accord ? Donc elle continue d'avoir cette valeur-là du fait que le Seigneur y continue d'agir et d'écrire au travers de nos imperfections. Et bien sûr que Dieu, il agit aussi au travers de ces prières-là. Heureusement, merci Seigneur pour ta grâce. Mais ces prières-là, les amis, ne sont pas bibliques. Elles ne sont pas bibliques. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base dans les Écritures qui nous permet de tenir fermement que ces déclarations, ces proclamations, elles sont solides. Hein, on n'en retrouve aucun exemple, elles n'ont pas de base théologique saine. Pourquoi ? Parce que nos paroles n'ont aucune autorité en soi. Et aucun texte biblique n'affirme que nos paroles n'ont une quelconque autorité. Ça s'apparente à du New Age, ça s'apparente à de l'animisme. On parle aux esprits, on parle aux principautés, on parle à ce qui se passe, mais c'est une vision mystique de la prière, et ça nous conduit à de l'irréalité. C'est Dieu qui crée par sa parole, et pas nous. Et la qualité de créateur, c'est un attribut de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Et c'est ce qui le distingue comme Dieu de nous. Nous héritons de son autorité, mais nous n'avons pas hérité du statut, de l'attribut d'être créateur et de pouvoir créer par la parole. Et donc, dans nos déclarations, dans nos proclamations, quand on prétend créer quelque chose de la manière dont j'ai prié tout à l'heure, on s'attribue une dimension de créateur qui n'est pas biblique. C'est Dieu qui crée et qui agit. Et en fait, on est en train de se mettre à la place de Dieu. Et finalement, comme si on ne le dénonce pas, c'est vraiment un faux enseignement qui est grave. Donc j'aimerais nous rendre attentifs à ça ce matin. Attention à nos proclamations générales. Attention à nos déclarations générales. Et plus encore, attention à ces déclarations qui peuvent même être irrévérencieuses si nos déclarations elles sont dirigées vers Dieu. Parce que ça veut dire qu'on est en train de prendre un positionnement d'autorité vis-à-vis de Dieu qui est profondément faussé. On est en train de dire à Dieu ce qu'il va faire et ce qu'il doit faire. Est-ce que Dieu nous est soumis de cette manière-là ? Est-ce qu'on trouve dans la parole un endroit qui nous dit que nous avons une quelconque autorité qui fait que Dieu va être soumis à la direction que nous allons lui donner dans notre prière ? Nulle part. Et pourtant, combien de fois j'ai prié de cette manière-là ? Combien de fois ? Plein. Est-ce que pour autant j'ai été foudroyé ? Non. Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce que pour autant le Seigneur il a agi au travers de ma prière ? Oui. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on garde un cœur léger ce matin. mais qu'on garde aussi un cœur humble qui se laisse reprendre par la parole de Dieu. Je déclare, Seigneur, que tu fais une œuvre de guérison maintenant et que tu agis puissamment dans la vie de mon frère. Qui a déterminé que c'était le temps de la guérison? C'est moi ou c'est Dieu? Dieu est le Seigneur, nous sommes son peuple, nous ne lui ordonnons pas, nous ne lui commandons pas. Il est le Seigneur, il n'est pas notre majordome. Donc dans notre manière de prier, souvenons-nous de ça. Notre Père, pas les hommes, pas les autorités spirituelles, notre Père. Quand Jésus prie, il ne fait pas des déclarations et des proclamations, il parle à son Père, il lui exprime son cœur, il lui fait des demandes. Par exemple, dans Jean 17, on trouve « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et il ne dit pas « Je déclare que mes disciples seront gardés en ton nom et qu'ils seront un comme le Père et moi, nous sommes un. » Et Paul, lui-même aussi, il dit « Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie qu'il vous donne toutes ces choses. » Prier, c'est demander à Dieu, ce n'est pas déclarer. C'est pour ça que la prière est un temps de relation avec notre Père et qu'il est bon qu'on entre dans sa chambre, qu'on ferme la porte et qu'on trouve notre Père qui est là. Quelle espérance que cette parole de l'Écriture nous garantisse que alors que nous venons devant Dieu, le Père est là. Elle ne dit pas qu'il y a un processus, elle dit que le Père est là et qu'il est toujours accessible par Jésus-Christ. Et donc, il sera toujours là pour entendre notre prière et la recevoir, ce temps de relation, ce temps de communion, ce temps de discussion ensemble. Prier, c'est demander à Dieu, ce n'est pas déclarer. Ok, je vais passer beaucoup plus vite sur tout le reste. Donc, notre Père qui est aux cieux, le Père est l'être le plus proche, le plus intime du monde, qui nous connaît depuis avant notre naissance et qui est la source de notre vie, à qui on peut tout dire, avoir confiance, avec assurance. Et en même temps, souvenons-nous que c'est lui qui commande l'éclair et le tonnerre. Il dit une parole et il y a une armée innombrable d'anges qui s'exécutent. Il est celui qui est le propriétaire de tout l'or, de toutes les mines d'or qu'il peut y avoir sur la terre. Il est le souverain Seigneur de tout l'univers. Et c'est lui, ce Dieu qui est infiniment grand, tout puissant, qui nous invite à lui parler et à lui demander d'agir. Alors prenons juste conscience, quand nous venons devant notre Père aussi, de cette dimension de puissance de la personne à qui nous nous adressons. Que ton nom soit sanctifié. Quand Jésus il entre dans la présence de son Père, ce de quoi il veut parler en premier, c'est de Dieu. Il reflète vers Dieu les gloires et les splendeurs de sa propre personne et il commence avec de l'adoration et c'est une invitation pour nous aussi. Ça oriente nos cœurs à ne pas venir dans la prière comme des consommateurs, okay, mais à venir comme des adorateurs. Mon intérêt principal dans le fait de prendre du temps avec Dieu sera la joie de prendre du temps avec Dieu et pas d'obtenir la réponse à mes prières. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père, il nous enseigne une manière de prier qui est clairement pas naturelle. Okay ? Toute la première partie jusque-là du Notre Père, elle nous décentre de nous-mêmes. Okay ? On se désintéresse pour un moment de nos problèmes et on s'intéresse à Dieu. Et c'est le contraire d'une prière nombriliste. Le Notre Père, ce n'est pas une prière bisounours, mais une prière où on demande au roi de venir régner. Okay ? Et donc de venir confronter tout ce qui, dans ce monde et en nous, lui déplaît. Donc commençons la prière en levant les yeux, d'accord ? Et en venant pour Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Martin Luther dit cette phrase que je trouve magnifique et dure. Donne-nous la grâce de supporter de bon cœur maladie, pauvreté, déshonneur, souffrance et adversité de toutes sortes et de reconnaître qu'à travers ce vécu, ta volonté divine crucifie la nôtre. Est-ce qu'on est capable de redire ça? Oui, parfois il va dire non à notre volonté. Parfois Dieu va dire non. Mais, et il y a toujours un grand mais, sa volonté ne va jamais nous mener là où sa grâce ne peut nous porter. Jamais. Dieu a dit non à Paul, mais il lui a aussi dit, Paul, ma grâce te suffit. Il ne l'a pas laissé abandonner. Et quand Dieu dit non à nous, à nos prières, il ne nous abandonne pas à nous-mêmes, mais il nous accorde tout le soutien nécessaire pour nous porter dans ce refus. Et gardons toujours dans nos prières cette humilité qui reconnaît la juste soumission à la volonté parfaite de Dieu et non pas la nôtre. Une volonté qui nous dépasse complètement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand on prie le Père pour recevoir le pain dont nous avons besoin, Dieu, il peut répondre de deux manières. Il peut répondre de manière transcendante, extraordinaire, immédiate, incroyablement miraculeuse. Mais Dieu va aussi répondre en agissant de manière immanente, complètement ordinaire. Au point que des fois, on ne voit même pas la réponse de Dieu parce qu'on ne lui en attribue pas la réponse. Et l'un ne vaut pas forcément mieux que l'autre. Dieu agit de ces deux manières-là dans la manière de donner chaque jour le pain dont nous avons besoin. Et dans les deux cas, Dieu répond, croyons-le fermement, et donne tout ce dont nous avons besoin selon sa juste vision de ce dont nous avons réellement besoin. Et donc la prière, c'est un moment où nous pouvons demander à Dieu ce dont nous avons vraiment besoin pour aujourd'hui, pour maintenant. Ne faisons pas des prières de provision. Demandons ce qu'il est juste par rapport à nos besoins maintenant. Et Dieu dit que voilà, il entend ces choses-là et qu'il répond. Quelle espérance. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et plus nous nous efforçons d'être fervents envers le Seigneur, plus nous aurons douloureusement conscience de notre péché. Plus je vais m'approcher de Dieu, plus sa lumière va pointer vers l'état de mon cœur. Mais aussi, plus nous serons remplis de la joie du pardon, plus nous serons aptes à pardonner aux autres. Et donc la prière, c'est aussi un moment pendant lequel nous demandons pardon à Dieu. Et un moment pendant lequel nous recevons la force d'aller pardonner aux autres. Ça fait partie de nos prières. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu a prévu pour nous un certain nombre d'épreuves. Je sais que ce n'est pas très marketing aujourd'hui, mais c'est très biblique. Dieu a prévu pour nous un certain nombre d'épreuves. Quel est le but de l'épreuve ? C'est pas qu'on échoue, c'est pas qu'on souffre, c'est pas qu'on soit jugé par Dieu, c'est pas qu'on soit testé par Dieu. C'est qu'on devienne davantage comme le Père. C'est qu'il y ait une œuvre de transformation au milieu de l'épreuve. Dieu nous façonne à travers l'épreuve. Et dans l'épreuve, il y a toujours une forme de tentation, quelle qu'elle soit, un désir qui peut prendre de nombreux aspects, et selon qu'on va résister ou selon qu'on va se laisser aller vers ces désirs, nous serons davantage conformes à notre Seigneur ou alors nous tomberons dans la tentation. Eh bien, juste, ne nous estimons pas meilleurs que l'apôtre Pierre, ok ? Et nous aussi, veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. La grâce de Dieu, elle ne nous abandonne jamais, elle nous porte, elle est pour nous un secours, elle est pour nous un rocher solide dans l'épreuve. Alors dans nos prières, demandons aussi à Dieu de continuer à nous transformer, à nous rendre toujours plus comme lui et à marcher selon sa volonté. C'est important de pouvoir ouvrir nos prières de cette manière-là. Et en conclusion, parce que ce Notre Père, il finit d'une manière majestueuse, cette doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus commence en regardant son Père et il finit en regardant son Père. Et ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que la prière, ce n'est pas amener quelque chose à la connaissance de Dieu, c'est amener quelque chose à la dépendance de Dieu. On ne prie pas pour informer Dieu de nos vies, on prie pour inviter Dieu dans notre vie. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, je ne vais pas dire la même chose à Dieu. Ce que je voudrais vous proposer, c'est de découvrir ce matin, au travers du modèle du Notre Père, de découvrir ça comme une prière offerte par Jésus pour servir de modèle à notre prière. Dans le contexte de tout ce qu'on a dit précédemment, le Notre Père, il inclut en fait les différentes sortes de prières dont Paul y parle aux Éphésiens, dans Éphésiens 6, 18, quand il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Alors on les cherche, ces sortes de prières, on les cherche toutes, elles sont là. Ok, veillez cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Et donc, en tant que tel, moi ce que je veux vous proposer ce matin, c'est que le Notre Père il puisse nous servir de modèle pour développer notre vie de prière personnelle. Ok, les disciples ils demandent « Apprends-nous à prier » et Jésus, en gros, voilà ce qu'il leur répond. « Commence par de l'exaltation, de la louange, de l'adoration, commence par là. » Focalise-toi sur les choses extérieures à toi-même à travers l'intercession. Prie pour tes besoins à travers la prière de requête ou de supplication. Développe la prière de confession et de repentance. Médite sur tes actes envers d'autres par l'introspection ou l'examen de soi. Et finis comme tu as commencé en attribuant la gloire à Dieu, cette doxologie. Et pour que ce soit vraiment concret, ce que je vous propose de suivre pendant cette semaine de prière, c'est ce que je vous ai mis à la fin de votre guide de prière, de guide pratique de la semaine de jeûne et prière en page 8, 9, 10, je crois, ou un truc comme ça. C'est une route prière, ok ? La route prière, elle consiste à être un guide pour chaque jour. Vous voyez que c'est une roue avec 12 cases, ok ? Et vous comptez 2 minutes 30 dans chacune de ces cases-là, et à la fin, vous avez passé une demi-heure à prier selon le modèle que nous trouvons dans le Notre Père. Et on va trouver 2 minutes 30 d'adoration, d'admiration, d'exaltation, l'intercession pour 3 niveaux différents. Ok, vous les retrouverez dans le guide. La requête, la confession, la repentance, l'examen de soi, la doxologie et la reconnaissance. Et à la fin du guide de prière, vous avez des outils pratiques et concrets avec des textes bibliques, avec des attributs de Dieu, avec des conseils pour chacune de ces cases-là. Donc, vous n'êtes pas seul face à cette roue. Mais ce que j'aimerais vous encourager à faire, ce que j'aimerais vous exhorter et vous lancer comme défi pour cette semaine, essayez de passer tous les jours cette demi-heure de prière guidée avec cet outil-là devant Dieu. Dans le contexte de tout ce qu'on a dit là, c'est un temps de discussion, d'échange, de communion avec mon Père. Amen. On relève le défi. Yes. À toi la gloire, Seigneur. Merci. À toi.